L'actu de ce matin, Émilie Bonneau, Bernard Poiretz.
Émilie, bonjour.
Ah, bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une de ce journal.
Les premiers gilets jaunes à Paris ce matin, une trentaine de gardes à vue en cours et plusieurs dizaines de manifestants rassemblés place de l'Étoile. Tout le centre des Champs-Élysées au Grand Boulevard est bouclé. Dispositif de sécurité exceptionnel en région également. Nous serons dans les Alpes-Maritimes et une journée décisive qui s'annonce pour Emmanuel Macron.
Donc les premiers gilets jaunes sont arrivés à Paris. Déjà, les premières interpellations aussi.
121 au total, 34 personnes sont en garde à vue, pour la plupart des trentenaires venus de régions sur lesquelles ont été retrouvés des masques, des marteaux, des pavés. Et de nombreux manifestants sont rassemblés en ce moment au pied de l'Arc de Triomphe, là où ça avait dégénéré dès le début de matinée samedi dernier. Le quartier est sous très haute surveillance, pas de métro, circulation interdite. On vous retrouve sur place pour Europe 1, Théo Manval.
Oui, le rassemblement est pour l'instant vraiment tout à fait calme. Une poignée de gilets jaunes qui ne se sont pas rassemblés pour l'instant porte-maillot près du périphérique comme l'appel avait été lancé, mais donc autour de l'Arc de Triomphe. Arc de Triomphe totalement entouré de camions de gendarmes mobiles, des véhicules blindés de la gendarmerie sont aussi positionnés dans les rues juste à côté. Les Champs-Élysées sont déserts, les seuls véhicules à circuler sont ceux des policiers, très nombreux, beaucoup plus à ce stade que les gilets jaunes. Ludovic est venu de Chambéry dans la nuit.
Moi personnellement je suis content qu'il soit là parce que comme ça on se sent un peu en sécurité parce qu'on n'est pas du tout là pour casser et on est pacifique. Pouvoir d'achat, il y en a ras-le-bol quoi, les gens ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, ils font que payer les factures. Pour se nourrir, bah, faut se mettre dans le découvert. Et moi je travaille dans un magasin de bricolage. Je vis seul avec un enfant en garde alternée, et je peux vous assurer que j'y arrive pas. Je suis tout le temps à découvert. Donc ras-le-bol, moi je veux pas d'aide, je veux aller travailler, je suis pas un feignant, mais je veux vivre en allant travailler, ce qui se passe plus maintenant à l'heure actuelle.
Voilà, le jour est en train de se lever sur les Champs-Élysées, les manifestants continuent d'arriver par petits groupes avec leurs gilets. Un petit peu plus bas, la circulation est fermée tout autour du palais de l'Élysée et de la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. Tous les commerces sont fermés, mais encore une fois, pour l'instant, ils sont assez peu nombreux et l'atmosphère est tout à fait calme.
Théo Manval en direct pour Europe 1 de la place de l'Étoile, où se situent donc des blindés de la gendarmerie. 12 au total sont positionnés dans Paris, à la Concorde également et à Bastille. Ils appartiennent au groupement de Satory en région parisienne, où s'est déplacé hier le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, Guillaume Bier. Guillaume Bier, que l'on retrouve.
40 ans de service, mais sont toujours aussi efficaces. Ces mastodontes blindés, bleus gendarmerie, avec leurs 13 tonnes, leurs énormes roues, et au sommet, une tourelle d'où peut être tiré du gaz lacrymogène. Le lieutenant-colonel Valentin, chef d'état-major du groupement blindé de Satory.
C'est pas un char d'assaut, c'est réellement un engin blindé. Donc pour la protection des personnels avant tout.
Un type d'engin qui intervient en appui des gendarmes mobiles avec deux missions, explique l'adjudant-chef François Simon.
Alors ces engins vont être positionnés sur certains points sensibles afin de pouvoir offrir une protection au personnel ou avoir des capacités de dégagement des axes avec la lame comme vous pouvez le voir ici.
Défoncer une barricade, protéger les troupes, un équipement indispensable, estime le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.
Il y a eu des consignes qui ont été passées par les casseurs d'essayer de neutraliser les différents engins, d'où l'importance d'avoir des engins blindés comme cela. Là encore, les casseurs ont pris pour cible à la fois nos moyens humains, mais aussi nos matériels physiques.
Ces blindés gendarmerie sont donc prépositionnés dans Paris, une première historique pour du maintien de l'ordre dans la capitale.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Et si les 6 gilets jaunes parmi les modérés reçus hier soir à Matignon appellent au calme et demandent à ne pas manifester dans Paris, ils se donnent rendez-vous dans moins d'une heure sur le périphérique pour bloquer la porte Maillot. Autre quartier sous surveillance, celui de la Madeleine à l'Opéra en passant par les grands boulevards avec les grands magasins fermés, les stations de métro aussi.
En région également, les dispositifs de sécurité sont très renforcés.
C'est le cas à Marseille, à Saint-Étienne, après les débordements de la semaine dernière. Dans le Pas-de-Calais, le préfet a interdit toute manifestation à plusieurs endroits, car ils sont nombreux parmi les gilets jaunes à vouloir rester chez eux. C'est le cas de ceux et celles qui bloquent le rond-point de la sortie de l'autoroute Fréjus-Saint-Raphaël dans le Var. Frédéric Michel.
Manifester à Paris, mais pourquoi faire? C'est le sentiment général sur ce rond-point à la sortie de l'autoroute A8, occupée depuis 3 semaines par les gilets jaunes.
On monte pas sur Paris, non. On reste ici, on a déjà pas mal à faire dans notre région. Puis dialogue avec la population, parce que là, Paris, c'est pas représentatif, on voit des casseurs.
Mathilde travaille dans la boulangerie de ses parents, comme chaque jour. Elle est venue sur le rond-point apporter pain, croissants et gâteaux.
Nous, on est commerçants, on vient amener notre soutien comme on peut. Et puis le week-end, quand on travaille pas, on vient bloquer les ronds-points aussi. Chaque village, chaque ville de toute la France a besoin de parler et de se montrer. Et on n'a pas besoin de monter à Paris tout casser pour se faire comprendre. Après, est-ce qu'il va nous écouter? Ça, c'est encore une autre histoire.
Jean-Luc n'ira pas non plus à Paris, même si pour lui, manifester dans la capitale est décisif.
Il faut des gens qui restent sur les ronds-points, mais il faut en même temps des manifestations à Paris parce que c'est l'endroit qui est le plus visible, où le gouvernement, les décideurs prennent en compte le plus nos revendications. Même s'il faut dire que la violence en est contre, malheureusement, c'est la seule chose que le gouvernement entend. S'il n'y avait pas eu la violence les week-ends d'avant, on n'en serait pas là.
Et après, juste tous se disent prêts à passer Noël sur les barrages s'il le faut.
Frédéric Michel dans le Var pour Europe 1 à Montauban, par ailleurs, 28 cocktails Molotov et 3 bombes artisanales ont été saisies hier à un rond-point occupé par des gilets jaunes.
Et à Saint-Ins, et juste à l'instant, ce SMS au 739-21 qui nous vient de Bastia, signé Alex, qui dit « Bien sûr, je comprends le mouvement des gilets jaunes, mais il faut leur dire « Ne cassez rien, s'il vous plaît, parce qu'au final, c'est le contribuable qui va payer les réparations ». Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron doit passer la journée à l'Élysée. Pas de prise de parole prévue de la part du chef de l'État. On en parle dans un instant, juste après ceci.
Europe 1, il est 8h06. L'information reprend avec Émilie Bonneau et Bernard Poirette.
Emmanuel Macron attend toujours, avant peut-être de parler très prochainement, le chef de l'État, en tout cas, va passer la journée de samedi à l'Élysée.
Oui, après avoir rencontré hier soir des gendarmes de Guéret mobilisés sur Paris pour le deuxième week-end d'affilée. Mais là aussi, pas de prise de parole publique, seulement des encouragements et des photos. Michaël Darmon, c'est une journée cruciale pour l'exécutif.
Effectivement, et concentré sur deux registres, la sécurité, hein, on l'a vu, la sévérité à l'égard des casseurs d'un côté, l'apaisement et la recherche d'un dialogue avec des gilets jaunes, comme on l'a vu à Matignon hier. Mais pour Emmanuel Macron, cet acte 4 du soulèvement des gilets jaunes, c'est le jour le plus long depuis son élection. Une semaine marquée également par son déplacement au Puy-en-Velay, où la préfecture avait été incendiée la semaine dernière, là où il a été pris à partie personnellement, où sa voiture a été poursuivie par des gilets jaunes, où des insultes lui ont été proférées. Il a pris conscience personnellement d'un niveau de à la fois du rejet sur sa personne et sur la fonction présidentielle, ce qui explique ensuite son attitude. Dans le courant de la semaine, on est passé de la suspension du moratoire des hausses sur le carburant à l'annulation pure et simple. Depuis, plusieurs proches également le constatent, il communique peu, il consulte beaucoup, ne cache pas son inquiétude. Et ceux qui le connaissent depuis longtemps disent qu'ils ne l'ont jamais vu ainsi.
Et dans ce contexte, est-ce qu'Emmanuel Macron peut créer l'union sacrée autour de lui?
Alors il a passé aussi depuis deux jours beaucoup de coups de téléphone, tous les responsables institutionnels et politiques, il les a encouragés à tenir leurs troupes, mais il a également tenté effectivement de créer autour de lui une sorte d'union sacrée contre la violence. On verra s'il y a réussi. C'est vrai qu'on entend beaucoup de responsables politiques appeler au calme. Il effectivement reste silencieux, va analyser la journée et réfléchir à ce qu'il va dire aux Français la semaine prochaine, parce qu'il a un tournant de son quinquennat. Non seulement il doit apporter effectivement des réponses aux gilets jaunes, mais il doit trouver le moyen de faire redémarrer son mandat.
Merci beaucoup Michaël Darmon du service politique d'Europe 1, et notre invité dans 7 minutes exactement, je vous le rappelle, juste après le journal, Benoît Hamon, le fondateur du mouvement Génération, ancien ministre de l'Éducation nationale et tête de liste et candidat aux prochaines européennes.
Benoît Hamon, indigné notamment par l'interpellation de 151 jeunes jeudi à Mantes-la-Jolie, qu'on a vu agenouillés, mains sur la nuque. Les deux tiers ont reçu hier un rappel à la loi. La jeunesse, de nouveau dans la rue, du moins une partie, aujourd'hui à Paris. Virginie Salmen.
Les étudiants des quatre facs parisiennes mobilisées ont un point de rendez-vous ce matin avec les cheminots et les gilets jaunes près de la gare Saint-Lazare, ceux de Tolbiac, Sancier, Paris 8, Nanterre. Difficile de prédire combien seront présents, des centaines d'étudiants qui ont assisté aux assemblées générales de cette semaine. Ils ont entendu en boucle les risques qu'il y a à manifester aujourd'hui. Nicolas, étudiant à Tolbiac et qui porte parfois le mégaphone, les a bien en tête, mais ça ne l'arrête pas.
J'ai conscience que c'est plus dangereux que d'habitude, mais simplement parce qu'elle met aussi plus en péril le gouvernement. Parce qu'on est dans des manifestations qui, en fait, ouvrent la perspective de peut-être le faire reculer à la fois sur les taxes, à la fois sur peut-être gagner des avancées sociales sur l'augmentation des salaires, pour nos conditions d'études. C'est aussi parce qu'il y a plus d'enjeux à ce mouvement. Et moi, j'irai sans équipement en particulier, parce que je pense qu'on peut se protéger mutuellement si on est nombreux dans les cortèges et qu'on est solidaires.
Pour ce qui est des lycéens, le principal syndicat, le SGL, appelle ses militants à rejoindre les gilets jaunes dans chaque département, mais il ne revendique que quelques milliers d'adhérents dans toute la France. À Paris, le recteur a pris la décision de fermer une trentaine de lycées dans lesquels il devait y avoir cours ce matin. Même chose à Toulouse et à Marseille. Et dans les communes de banlieue parisienne, la fermeture sera décrétée au cas par cas.
Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1, la mobilisation des gilets jaunes jaunes. Ce sont aussi de très nombreux magasins fermés aujourd'hui, même à 3 semaines de Noël. C'est le cas de Jouet Club pour la sécurité des clients et des salariés à Paris. Vous entendrez son porte-parole dans le journal de 8h30. Puis le Téléthon, 32e édition maintenue ce week-end. Les dons atteignent ce matin les 5 millions d'euros.
Et je vous rappelle bien sûr un seul numéro pour donner au Téléthon. Le 36-37, la ligne est ouverte en permanence.
Et à 8h12, c'est votre journal des sports avec Émilie Bonneau.
On commence avec le football. Émilie, les matchs annulés du week-end en raison du mouvement des Gilets jaunes seront joués les 15 et 16 janvier.
Oui, et seulement 4 des 10 rencontres de cette 17e journée de Ligue 1 vont se disputer ce soir. Guingamp-Amiens et Rennes-Dijon à 20h. Demain, Strasbourg-Caen et Lille qui va recevoir Reims. Si tout se passe bien, l'entraîneur Christophe Galtier se prépare à toute éventualité.
Une situation quand même dramatique. Je regarde tous les jours, matin et soir, évidemment, les informations. Et notre beau pays devient un pays qui fait la une sur le plan international. Et c'est quand même désolant. Quant à savoir si nous, on doit jouer ou pas jouer, c'est vraiment très secondaire. Nous, on est prêts pour jouer. Mais si on ne doit pas jouer, on ne jouera pas.
Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille avec Sébastien Bouet pour Europe 1, reportait également le match des Françaises à l'Euro de hand face à la Suède. Prévu normalement cet après-midi, il se disputera demain à Nantes.
En rugby, là, ça va jouer avec le retour de la Coupe d'Europe.
Et Toulouse peut se qualifier pour les quarts de finale dès aujourd'hui. Leader de son groupe et en déplacement chez les derniers, les Wasps de Londres, à 18h30. Et puis en tennis, Amélie Mauresmo s'explique sur son choix de renoncer au capitanat de l'équipe de France de Coupe Davis et d'entraîner Lucas Pouille. C'est clairement le changement de format de la compétition qui ne lui plaisait pas.
C'est plus ce pourquoi j'avais signé, c'est plus ce pourquoi j'avais vraiment envie de me bouger et ce pourquoi je vibrais. Donc voilà, en parallèle de ça, il y avait le discours de Lucas qui était avec beaucoup d'envie de sa part de mettre des choses en place assez ambitieuses. Et ben, au bout de quelques jours, une semaine, voilà, ça paraissait assez clair dans ma tête que c'était le projet de Lucas qui allait m'attirer le plus, quoi, finalement. Donc voilà.
Amélie Mauresmo avec Jean-François Pérez pour Europe 1.
Et ceci conclut le journal de 8h présenté par Émilie Bonneau. Émilie, à tout à l'heure.
À tout 9h,
sans faute.